France Musique. France Musique, les grands entretiens, François-Xavier Chemchak.
Je m'appelle Cyril Huvet, je suis né le 9 février 1954 à Paris, je suis pianiste.
Cyril Huvet, nous voici à la troisième partie de nos entretiens qui nous ont permis d'évoquer votre enfance à Auteuil, à Passy, votre formation musicale, vos maîtres Dominique Merlet, Claudio Arao, Giorgio Tifra. J'aimerais que nous parlions aujourd'hui de votre instrument de musique, du piano, ou plutôt des pianos sur lesquels vous jouez. J'imagine que lorsque vous avez commencé à l'âge de 8 ans, c'était sur un instrument modeste.
Tout à fait, modeste, oui, un piano droit et ensuite un piano quart de queue, je crois, oui, piano courant. Et d'ailleurs, ensuite, j'ai eu aussi des pianos toujours noirs et fabriqués récemment pour travailler, un kawaii. À partir d'un certain temps, j'ai trouvé que le son de ces instruments était assez neutre, trop neutre, et donc j'ai cherché une sorte de vibration musicale que je trouvais pas dans ces instruments, en fait.
Quand est-ce que vous avez pris conscience des véritables richesses sonores du piano, de l'acoustique, au-delà de la technique pianistique? À quel âge à peu près?
Bah écoutez, en fait, j'ai grandi pas mal en écoutant beaucoup d'enregistrements aussi de pianistes anciens, donc, et surtout par exemple Alfred Cortot ou Yves Nat, donc j'étais très sensible déjà aux différences de couleurs et de vibrations du son, et que j'étais assez frustré en fait de la neutralité surtout des aigus en fait des pianos qu'on avait couramment, et donc je trouvais qu'il n'y avait pas cette sorte d'intériorité de l'âme et la modulation en fait du son, qu'on avait toujours quelque chose d'un peu tout préparé et qui était bien présentable, enfin qui se présentait très bien, mais qui était vraiment un peu toujours pareil, quoi. Et donc je trouvais pas la différence de dynamique ou de des nuances infimes, enfin c'était tout un ensemble de choses qui est aussi, par exemple, voilà, j'aimais beaucoup Arthur Schnabel, alors je trouvais qu'il y avait une vibration extraordinaire du son qu'on avait du mal à avoir.
Donc vous êtes aujourd'hui considéré comme un grand spécialiste de ces pianos anciens. D'abord, je voudrais savoir que vous rappeliez quels ont été les pionniers de la redécouverte de ces pianofortés, de ces pianos anciens, au moment où vous avez commencé votre carrière.
Alors il y a eu les pianistes viennois, Jörg Demus et Paul Badura-Skoda.
Qui sont morts tous les deux la même année,
oui, 2019. Voilà, 2019. J'ai bien connu d'ailleurs Paul Badura-Skoda, qui est devenu un ami, on peut dire, mais également Malcolm Bilson, pianofortiste américain dans une autre école, et puis c'est les Anglais qui ont beaucoup avancé dans ce domaine, en fait, parce que les Anglais ont eu des collections de pianos anciens, il y avait Colt Collection, enfin il y avait déjà des gens qui s'intéressaient beaucoup depuis longtemps à cette question, et puis aussi des instrumentistes qui commençaient à jouer authentique, comme on dit, c'est-à-dire dans la musique d'orchestre, et bon, il y a les grands pionniers comme Arnoncourt, mais après les Anglais, il y a eu Roger Norrington, et puis John Elliott Gardiner après.
En tout cas, sur le piano, ça commence dans les années quoi, 60, 70
70, oui.
Avec Badura-Skoda et Demus.
Oui.
Et alors, en tant que pianiste, comment vous êtes rentré en contact avec ces instruments ?
Alors, en tant que pianiste, je suis rentré en contact à l'occasion de l'enregistrement de l'intégrale des mélodies de Liszt. Alors, 86, c'est le centenaire de la mort de Franz Liszt. C'est un projet que j'ai pu monter grâce à la radio où nous sommes, en fait, parce qu'à l'époque, il y avait toute une coproduction sur les enregistrements, sur les disques. Alors, j'ai proposé ce projet à Alain de Chambure, qui était le directeur de France Musique, et puis aussi, il y a eu le programme musical de France Culture. Enfin, il y a eu plusieurs étapes. C'était un projet qui a été long à réaliser, parce qu'on a fait finalement à peu près 4 heures de musique. Il y a 80 leaders. C'était un domaine qu'on ne connaissait pas encore très bien de la musique de Liszt. J'avais envie d'aller vraiment creuser là-dedans parce que ça me semblait passionnant et je me suis dit comment ça se fait qu'il n'y ait pratiquement aucun chanteur qui ne chante ça.
Fischer-Dieskau
voilà,
enregistré.
Il y avait voilà, le coffret de Fischer-Dieskau et puis c'est tout quoi en fait. Mm. Si, il y avait aussi, je sais pas, Alfredo Kraus qui avait fait les sonnettes Pétrarque, bien sûr. Enfin, je ne dis pas qu'on n'a jamais chanté les leaders de Liszt, mais disons, ce n'était pas courant du tout dans la pratique des chanteurs.
Mais alors pourquoi sur un instrument dit d'époque ?
Voilà, alors c'est là aussi le hasard, au piano Balleron à côté de la rue de l'Annonciation, il y avait un Erard qui était dans la vitrine, donc je suis rentré et
on peut rappeler ce que c'était que les pianos Balleron ?
Alors les pianos Balleron, c'était le représentant à Paris des pianos Bechstein qui était rue de l'Annonciation, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Tout près d'ici, à Radio
France. D'ici,
ouais.
Et c'était le représentant français des pianos Bechstein, que je connaissais déjà parce que je crois que j'avais utilisé souvent un piano Bechstein, en fait c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, je rentre là et je trouve ce piano Erard magnifique. Alors, c'était, je dis aussi parce qu'on parle des pianos anciens, c'était le père d'une grande restauratrice de piano qui s'appelle Sylvie Foinon, qui est là actuellement, d'ailleurs, toujours dans ce quartier-là. C'est son père, Daniel Moucheboeuf, qui était le représentant des pianos Bechstein à Paris. Alors, il me reçoit à l'intérieur très cérémonieusement. Et puis, j'essaye ce piano. Puis, je lui demande, mais après tout, il est à vendre peut-être. Et donc, j'ai comme ça pu l'acheter. Et donc, il est sorti de la boutique et il est arrivé dans les studios de Radio France.
Mais vous n'aviez jamais joué de ce type d'instrument auparavant?
Non, pas réellement. Non,
c'était un vrai coup de foudre,
voilà,
en fait.
Voilà, c'était un coup de foudre, voilà, exactement.
Et donc, on a rapporté ce piano qui vous appartenait.
Voilà.
Et qui peut-être qui vous appartient toujours.
Et qui m'appartient toujours. D'accord. Qui est toujours à la Grange au piano à Chassignol.
Dont on parlera.
Ouais. Et donc, il est arrivé au studio 106, où on a commencé à enregistrer des leaders pendant plusieurs séances. Et puis après, on a fait une deuxième salve d'enregistrement l'année suivante. Enfin, ça a été à plusieurs étapes. C'était un gros projet, en fait, qu'on a pu mener avec Alain Chambure, qui faisait la direction artistique. Pour ça, j'ai aussi réuni les chanteurs qu'il fallait. J'ai eu donc la soprano Donna Brown, que je connaissais bien, avec qui j'avais déjà fait de la musique. Mais aussi, je suis allé trouver le ténor Ernst Effliger, qui n'était pas du tout dans ce
grand ténor suisse.
Je l'ai intéressé au projet, on l'a travaillé, et il a accepté d'enregistrer.
Alors cette intégrale, je précise, a été réalisée avec deux personnages qu'on a beaucoup aimés à Radio France et qu'on aime toujours, c'est Alain Duchemin et Jean-Michel Bernot. Et je précise qu'Alain de Chambure était le neveu de Geneviève de Chambure, dont les collections d'instruments anciens font aujourd'hui le bonheur du musée de la musique à Paris. J'imagine qu'Alain de Chambure, parenté, était sensible également
exactement. Alain
ces
Chambure,
instruments-là.
Vous avez tout à fait raison, j'y pensais pas, et je crois qu'il m'a beaucoup en fait incité à le faire justement.
Vous auriez pu vous dire que c'était une expérience certes passionnante, mais éphémère. Seulement, vous y avez pris goût.
Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a plu avec ce piano Erard de 1850 ?
Eh bien, alors, ce qui m'a plu beaucoup, d'abord, c'est que c'est très transparent et que on peut accompagner la voix d'une manière naturelle. C'est-à-dire que se posent pas les problèmes d'équilibre. On doit dire que souvent, quand on accompagne un chanteur, le piano est entre guillemets trop fort. Ça peut arriver. Donc, il y a le fameux livre de Gerald Moore, Am I Too Loud ?
Est-ce que je joue trop fort ?
Est-ce que je joue trop fort ? Le credo de l'accompagnateur, parce que les chanteurs craignent toujours d'être couverts, comme on dit. et veulent que leur voix passe, évidemment. Donc le piano est un soutien, en fait, et un partenaire essentiel. Tandis que là, on a plus d'égalité entre les deux. Disons que la note est homogène. Et il y a une identification du son du piano et du son de la voix humaine. C'est une banalité de dire que pour les compositeurs romantiques, la voix humaine, c'est le modèle qu'ils veulent tous égaler, Chopin, Bellini, etc. Bon, Liszt est en plein là-dedans, puisqu'il est le bel cantiste du piano absolu. Donc, je pense d'ailleurs dans ses leaders, en fait, parce qu'il a souvent transcrit des leaders en œuvre pour piano, seul, après.
Leader de Schubert, notamment.
Voilà. Mais il l'a fait pour ses propres leaders aussi. Oui. Et par exemple, Rêve d'amour, le fameux Rêve d'amour de Liszt, c'est d'abord un lead. Et il y avait trois rêves d'amour. Il a après transcrit pour piano seul, et parce que toujours il voulait montrer, je pense, ou c'était naturel, que le piano est un chanteur. Ce qu'on appelle la virtuosité, c'est de faire chanter le piano au milieu d'incidents les plus difficiles, mais qui doivent s'intégrer dans la ligne de chant.
Alors, vous justifiez l'emploi de cet instrument de 1850 pour l'accompagnement des voix, mais ces instruments-là vont vous accompagner, vous, quoi que vous jouiez, c'est-à-dire oui. Aussi bien en musique de chambre qu'en piano seul.
Oui, exactement. On devrait normalement jouer des œuvres du répertoire sur des pianos qui ont été construits avant leur composition. Et bon, on le fait pas toujours. En fait, quand on dit qu'on joue du piano ancien, on joue parfois du piano qui a été construit 30 ans après la composition.
Il faut que ce soit cohérent. C'est pas voilà. Seulement le plaisir de jouer un instrument
non.
Ancien.
Voilà. Il faut que ça soit cohérent. C'est pas juste une touche historique ou un effet de vignette, quoi. Il faut que ça soit de l'époque antérieure parce que on se dit que le compositeur, justement, comme ça, a pu jouer dessus. Ça joue beaucoup, par exemple, pour le pianoforte avec Beethoven. Ça, c'est sûr que il faut vraiment toujours repartir des instruments qu'il avait lui et pas de ce qui a été fait même 5 ans après. Parce qu'il y a eu des évolutions rapides. Alors, pour le piano era, c'est un peu différent parce que il y a eu un modèle fixé au milieu du 19e siècle. C'est un modèle qui a suivi jusqu'en 1880 facilement. Donc, on peut jouer vraiment toute cette période. Après 1880, il faut prendre des erreurs sans doute de construction ultérieure.
France Musique, les grands entretiens de Cyril Huvé.
Quand on commence à s'intéresser au piano ancien, il y a une chose très très passionnante, c'est qu'on est en relation avec des facteurs d'instruments, des restaurateurs, et certains avec des gens passionnants, et on arrive à trouver le rapport entre ce qu'ils font techniquement et le son produit. Donc il y a une vraie alchimie entre les deux. Et ça, on peut pas rester indifférent finalement au type de cuir qui est choisi, à la couleur même, parce que à différentes époques, on avait des feutres après de couleurs différentes. Pleyel avait sa couleur, Erard la sienne, Gaveau la sienne. Enfin, c'est des détails qui ont l'air un peu anecdotiques, mais qui en fait sont constitutifs du son et le rapport entre l'accordeur, technicien, restaurateur. Et l'interprète est très essentiel, en fait. Et ce qu'on n'a pas du tout quand on joue sur un piano moderne, souvent on arrive et on ne sait même pas qui a accordé le piano.
Vous avez enregistré certains de vos disques chez ces restaurateurs. Par exemple, tout récemment, en février 2020, dans l'atelier de Edwin Bunk en Hollande, avec 5 sonates de Beethoven. Oui. J'imagine que c'est une véritable caverne d'Ali Baba, ces ateliers plus exactement.
Oui, ces ateliers, parce que ça reste très artisanal, d'abord.
Avec des parfums, des odeurs.
Des odeurs. Des copeaux de bois, du vernis, c'est toutes les parties de la menuiserie, en fait, d'ébénisterie. Souvent, les facteurs de piano sont des ébénistes au départ. C'est un grand savoir-faire, une science incroyable. Et donc, Edwin Bunk, c'est un peu le pape des restaurateurs de pianos. Il y a tous ces pianos dans une petite ville de Hollande, dans un atelier où on a un peu l'histoire du piano dans la même pièce, en fait, et toutes les clés d'accord. Enfin, il y a l'organisation aussi parfaitement réglée à la hollandaise.
C'est à la fois un artisan, un artiste et une véritable encyclopédie, cet
homme.
Oui,
voilà. C'est aussi un artiste, en fait.
Vous faites en 1986, Cyril Huvé, l'acquisition de ce fameux piano Erard de 1850. Et c'est votre première acquisition. Mais c'est pas la dernière, parce que vous allez devenir un vrai collectionneur. Comment ça se déroule, ces acquisitions, l'histoire de votre collection ?
Eh bien alors ensuite, j'ai trouvé un piano Pleyel de 1827, en 1990. J'ai trouvé. Et peu après, j'ai enregistré en fait les ballades et scherzo de Chopin avec cet instrument. Et ensuite, j'ai rééchangé ce piano à Edwin Buck contre un piano viennois, en fait. Et donc, ce piano, maintenant, est chez Edwin Buck, qui l'a re-restauré. Et donc, il est absolument magnifique, incomparable avec ce que j'avais à l'époque. Et c'est un drame pour moi, parce que finalement, je trouve que... Mais je pourrais toujours m'en servir, cela dit, mais il faut aller chez lui.
Quels sont les instruments que vous préférez parmi ceux que vous avez ?
J'aime beaucoup le pianoforte Schanz, alors qui est un pianoforte viennois. Alors c'est donc de l'autre école. Le pianoforte viennois, ça demande vraiment une technique très très différente du piano moderne. C'est vraiment tout à fait autre chose.
Et donc, pourquoi ?
C'est un autre monde. C'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux de la technique de l'instrument. Ça demande énormément de souplesse. Il faut en tout cas jamais forcer l'instrument. Il faut partir de ce qui donne. Mais on entend comment les partitions de Beethoven ou Schubert peuvent fonctionner. Et c'est absolument fracassant comme expérience, parce que quand on entre dans cet univers, on n'a plus du tout envie d'en sortir. Et alors, de revenir vers des pianos franco-anglais ou allemands, vraiment, le piano viennois, c'est un monde à part. C'est une expérience singulière.
Donc, vous avez du Broadwood, vous avez du Erard, vous avez du Schanz, vous avez aussi un curieux piano qui est un piano double, je crois.
Oui.
De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est de 1900, c'est un piano à double clavier fait par la maison Pleyel.
C'est-à-dire, c'est une grande caisse dans laquelle il y a deux pianos.
Voilà.
Qui sont comme des siamois.
Voilà, exactement. Ouais. C'est deux pianos en un. Et c'est une idée, je trouve, absolument géniale, faite par Gustave Lyon, qui était le PDG des usines Pleyel à la fin du 19e siècle, qui était un polytechnicien, donc qui a calculé tout le plan de cordes pour avoir deux pianos où les cordes se chevauchent, passent les unes au-dessus des autres, et en même temps les chevalets sont tous de hauteur calculée pour que la charge de la table puisse fonctionner. Mais ce qui est extraordinaire avec le piano à double clavier, c'est qu'on a l'impression très vite qu'on ne sait plus lequel des deux joue, en fait, parce qu'on a le même son, on a la même
entre
table d'harmonie.
Entre les deux pianistes.
Entre les deux pianistes, ouais. Voilà.
Alors que quand vous jouez à deux pianos sur deux pianos différents, on entend vraiment une
différence. On entend une différence, ouais. Et en plus, il faut enlever le couvercle d'un des deux, puisque sinon il bouche le son de l'autre. Donc moi, je trouve que c'est assez hybride. Je trouve que l'invention du double clavier, je ne comprends pas du tout que ça n'ait pas été poursuivi, parce que c'est une idée de génie. Mais il fallait sans doute beaucoup de place pour les mettre. Enfin bon. Ouais. Et en fait, la maison Pleyel en a fait 54 exemplaires. Il y a des petits modèles, si on peut dire, 2,45 m, et puis grands modèles, 3 m. Voilà. Donc, c'est tout à fait patrimonial, en fait, parce qu'on peut aussi jouer à 8 mains des œuvres symphoniques, c'est-à-dire deux pianistes de chaque côté, deux 4 mains. Et je pense que ça correspond aussi à l'époque où on avait des abonnements de lecture chez Roire-le-Rôle ou d'autres éditeurs de ce genre qui tournaient en France. C'est-à-dire que vous étiez abonné, vous receviez tous les mois une livraison de partitions qui étaient des réductions d'orchestre, en fait, à 8 mains. On a aussi un piano qui a un intérêt historique, c'est le piano de l'épouse d'André Malraux, qui était pianiste, Madeleine Malraux. Et donc, il y a une photo assez célèbre de Malraux qui est adossée à ce piano et qui a étendu sur le sol devant lui toutes les planches des Voix du silence en préparation. Et donc, qui peut comme ça devant lui trier les différentes illustrations.
Thank you. Lorsque vous avez acheté votre premier piano en 1986, vous étiez parisien, c'est
oui.
ça voilà. Ensuite, vous en avez acheté un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. J'imagine qu'au bout d'un moment, stocker ça à Paris, ça devient compliqué.
Exactement. Oui, j'ai eu un moment la possibilité d'utiliser un atelier de la Cité des Arts à Montmartre, mais ça n'a pas pu durer éternellement. Donc après, je suis parti pour cela habiter en province. Ouais.
D'abord, à quel endroit ?
Dans une maison que je louais dans le Berry, et ensuite dans la Grange au Piano, quand je l'ai trouvée, j'ai commencé à la restaurer.
Alors, parlons de cet endroit qui est aujourd'hui central dans votre vie, cette Grange au Piano. Vous en faites l'acquisition en 2008. Dans quel état est cette grange ?
Eh ben, c'était une vraie grange, c'est-à-dire il y avait des poutres, du foin au premier étage, des anciennes stalles
pour les bêtes,
des appentis pour les cochons, enfin, etc. Donc elle était en fait en état de grange naturelle, était de très grande taille. C'est des granges alors à porto qui sont typiques de la région. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de porche d'entrée qu'on appelle le porto et qui est une bonne idée d'ailleurs, parce que comme ça on peut abriter le foin quand il pleut, donc c'est avant de le rentrer, donc on peut le mettre à l'abri, c'est une très bonne idée. Et alors voilà, de fil en aiguille, je l'ai restauré. Hein. C'était l'idée aussi de réunir dans un endroit des pianos et puis aussi toutes sortes d'archives et de livres et de ce que j'avais pour pouvoir étudier en fait. Et c'est toujours l'envie de la bibliothèque et du lieu de travail. Ça doit venir aussi des idées des abbayes, parce que vous m'avez interrogé sur les certaines choses de mon enfance, et ça m'a rappelé, en fait, j'ai fait pas mal de retraites, oui, à Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret, et des endroits. C'est là, je me suis rendu compte que j'avais une balance assez récurrente entre l'individuel et le collectif. Donc, on a envie d'un lieu de travail individuel et de le partager aussi avec d'autres dans un projet plus collectif. En fait.
Ce lieu, vous le partagez également avec votre épouse qui est professeure de piano, Céline,
oui.
et qui s'occupe activement de cet endroit. Aussi, votre fils Émile, qui est guitariste. Il y a une véritable équipe qui s'est mise en place.
Oui, je crois que c'est un peu indispensable parce qu'on ne pourrait pas y arriver. Mais vous avez raison, ça reste assez familial pour l'instant. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, et on le voit d'autant plus dans la période actuelle, parce qu'on a été petit à petit rendu plus conscient des conditions d'accueil du public, enfin, de toutes sortes de choses qui nécessitent qu'on soit plusieurs.
Il y a les conditions d'accueil du public et il y a les conditions de conservation de ces pianos qui sont fragiles.
Oui.
On peut en dire un mot de cela ?
Oui, alors, voilà.
De vos contraintes, par voilà. exemple, des intempéries, que sais-je, voilà. des animaux, de tout ce qui peut se passer
oui.
dans une grange dans le Berry.
Les animaux, bon, ça va, mais le froid et le chaud, il faut s'en préoccuper beaucoup.
Des oiseaux, des chauves-souris, des choses comme ça.
Voilà, les chauves-souris, oui, on a quelques chauves-souris qui sont... Mais je pense que la chauve-souris est un animal tout à fait familier et affectueux.
Qui aime bien le piano.
Qui aime bien le piano, je pense, oui. Il faut recouvrir un peu les pianos pour qu'ils ne les souillent pas, mais sinon, ça va.
Romance sans parole, Lied ohne Worte en do mineur, opus 38, numéro 2 de Félix Mendelssohn. C'était Cyril Huvé qui jouait sur un piano Broadwood de 1840. Demain, quatrième partie de ces grands entretiens, lors de laquelle nous évoquerons les compositeurs fétiches de Cyril Huvé.
À réécouter sur francemusique.fr.